Rosa Ikni.
Bonjour, à Bienne, le Lake Life Festival s'est terminé hier soir avec un record de fréquentation. Plus de 90 000 visiteuses et visiteurs venus de toute la Suisse ont profité des rives du lac et de la musique. Ça représente 10 000 de plus que l'année précédente. Cette édition a mis une cinquantaine d'artistes sur le devant de la scène, comme Luis Fonsi, Zaz, James Blunt, Pegasus et Caroline Alves. Le cofondateur et président du Lake Life Festival, Lucas Saul, ne cache pas son émotion face à ce bilan.
Pour nous, c'était vraiment très touchant de voir tous les gens réunis ici au bord du lac. À la fin, nous on a, notre vision est vraiment d'unir la région, de montrer la beauté de notre région, de faire vivre notre région. Et puis, je crois que ça, on est arrivé à faire avec tout le monde ici. Et c'est quelque chose d'incroyable. C'est une histoire qui continue et ça nous fait vraiment très, très heureux.
À votre avis, cette augmentation, elle peut être due à quoi? Est-ce que peut-être la programmation musicale a eu un impact ou bien ce serait autre chose?
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui font ça. Et puis d'un côté, c'est vraiment l'histoire Lake Life que les gens, ils commencent à comprendre avec notre vision d'unir ces éléments musique, sport et culture durant 10 jours. Mais je crois qu'on a eu beaucoup de familles qui étaient sur place pour profiter de cette offre sportive et culturelle durant la semaine. Et de l'autre côté, c'est clair, la programmation qui était vraiment au top et puis qui a très bien fonctionné ici à Bienne.
Et vous pouvez déjà sortir les agendas car la prochaine édition est déjà en préparation. Le Lake Life Festival 2026 se tiendra du 30 juillet au 8 août 2026. L'association Multimondo, centre de compétences pour l'intégration de personnes issues de la migration dans la région de Bienne-Zélande-Jura-Bernois, a eu un premier semestre 2025 bien réussi. 56 nouvelles personnes ont rejoint le programme, portant à 127 le nombre de participants depuis l'année passée. Et 67% des personnes inscrites en 2024 ont trouvé un emploi, stage ou formation. Yann Vasiller, co-directeur de Multimondo et responsable de domaine intégration au travail, nous explique selon lui l'origine de cette hausse.
Actuellement, nous avons une hausse des inscriptions. Nous avons de plus en plus de personnes qui s'inscrivent, notamment suite à l'inflation, j'imagine, et aussi face à l'augmentation des assurances maladie. Les deuxièmes personnes dans le couple ont tendance à devoir chercher du travail. Donc, on a de plus en plus de personnes qui sont ni aux offres sociales ni à l'ORP qui viennent chercher un premier emploi ou un deuxième emploi à Multimondo.
Qu'est-ce qui explique que malgré un contexte qu'on pourrait dire peu favorable en ce moment pour trouver du travail, autant de participants ont pu trouver une solution professionnelle pour ce premier semestre 2025?
Déjà, les participants qu'on a, c'est des participants qui sont normalement très flexibles au niveau des horaires. Ils sont aussi très flexibles au niveau des types d'emplois qu'ils cherchent. Et ils ont des bonnes compétences transversales, la plupart d'entre eux, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont aussi ponctuelles, qui sont prêts à travailler tant dans le nettoyage que dans la restauration à des horaires qui ne sont pas forcément agréables pour tout le monde, et ou dans le bâtiment. Donc ça, c'est les trois domaines dans lesquels on retrouve actuellement sans trop de difficultés. Et puis l'autre, c'est qu'on a réussi à trouver pas mal d'emplois pour certaines personnes, ben, il y a eu l'impact du Job Café et puis les relations avec les employeurs qu'on a et les agences de placement qu'on a.
À noter que Multimondo lance un appel pour recruter de nouveaux mentors bénévoles afin de répondre à la demande croissante. Il manie le métal sous les yeux des visiteurs du marché Concours. Le Genevois David Ripper a installé sa forge au pied de la Halle Cantine ce week-end à Seignelay. Le ferronnier et maréchal ferrant depuis près de 20 ans présente son travail durant la fête du cheval Franche-Montagne. À coups de marteau sur l'enclume, il prépare toutes sortes d'objets. Notre journaliste Nicolas Meusy a rencontré David Ripper dans la chaleur de la forge. Reportage.
Je suis en train de retravailler mon étampe pour finir des petits fers porte-clés.
Des petits fers porte-clés qui sont juste là. Qu'est-ce que vous créez en particulier?
Alors, d'une manière générale, tout ce qu'on me demande. On va dire que ça va du couteau au porte-bouteille, le support de téléphone, les cadres photos, et puis une petite rose de temps en temps pour la Saint-Valentin, ça fait toujours plaisir.
Donc tout ça avec du métal?
Exactement. Tant que je peux, j'utilise des vieux fers que j'avais posé sur des chevaux qui étaient trop usés pour refaire un voyage. Donc au lieu de les jeter, je les retravaille.
Donc là, vous êtes en train de prendre l'outil dans le four?
Exactement. Donc la forge, elle monte à 1300 degrés.
On voit là, quand vous l'avez sorti de la forge, c'était très très rouge, jaune, et très vite ça reprend une couleur métallique.
Tout à fait, mais parce qu'il fait jour. Si vous revenez la nuit, vous verrez qu'il est encore rouge, un bon rouge cerise.
Du coup, il faut se dépêcher de le travailler.
Oui, absolument. C'est le dicton, faut battre le fer tant qu'il est chaud.
hop, retour à 1300 degrés.
C'est ça, exactement.
Là, vous avez votre atelier mobile qui est installé dans votre camion, c'est toujours le cas ?
Exactement, oui. Je suis maréchal ferrant et itinérant. Donc on a la forge, l'enclume, la ponceuse, la perceuse, le stock de fer et après on répond à la demande.
Vous êtes au milieu des visiteurs du marché concours, c'est voilà, un contact dont vous avez l'habitude ?
Quand je fais des chevaux, je suis plutôt tout seul. Quand je suis à l'atelier en train de forger, pareil, je suis tout seul. Je suis assez timide et réservé en général, mais oui, c'est assez sympa. Il y a des bons contacts, des gens qui sont toujours intéressés, soit des anciens maréchaux qui ont arrêté. Toujours des moments de partage assez sympas.
Un reportage de Nicolas Meusy avec le ferronnier David Ripper, présent au marché concours dans le cadre du programme de l'hôte d'honneur, le canton de Genève. Découverte des énergies, culture d'un verger ou encore étude des hirondelles. Depuis 15 ans, le projet d'éducation du parc Chasseral, Graines de chercheurs, sensibilise les élèves du Jura bernois et du canton de Neuchâtel à la durabilité. Les établissements scolaires peuvent participer à des ateliers en pleine nature comme la culture d'un verger. En 15 ans, 300 classes et plus de 5000 élèves ont passé par Graines de chercheurs. La responsable des projets pour les écoles du parc Chasseral, Aline Brunger, dresse le bilan.
Au début, on ne savait pas trop si on voulait proposer un thème différent chaque année ou quelle thématique allait intéresser les jeunes. Au fil du temps, on a plutôt gardé certaines thématiques parce qu'on voit de manière récurrente que les enseignants, par exemple l'énergie, ils ont de la peine à savoir comment le rendre attractif, ce thème. Eh ben, ça permet à des enseignants de vraiment travailler le thème de manière super ludique, vivante, en contact avec des professionnels. Et au fil du temps, eh ben, on a commencé à proposer 4 thématiques. C'est toujours le cas aujourd'hui. 4 thématiques en parallèle et puis on a touché de plus en plus de classes.
Est-ce que vous avez eu des retours ?
J'ai des jeunes qui me disent « Ah oui, oui, je connais très bien le parc Chasseral. Moi, quand j'étais petit, on a planté un arbre dans notre cour d'école. » Donc oui, j'ai des retours et ça fait énormément de bien de voir que même quelques années plus tard, ils s'en souviennent. Donc ça marque les jeunes de participer à un programme comme ça.
Des propos recueillis par Arthur Vermogo. Dès la rentrée 2025, le parc Chasseral lancera Cours Vivantes, un projet visant à aménager de façon durable les cours d'école. À l'étranger, l'Ukraine affirme avoir repris un village aux forces russes. C'est ce qu'indique l'état-major sur Telegram aujourd'hui. La localité s'appelle Bessalivka et elle est située juste à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la principale zone d'affrontement entre les deux armées. Un rare gain ukrainien face à un adversaire qui continue d'avancer dans l'est. Et on passe au sport. Le FC Bienne veut prendre le bon wagon. Après une défaite initiale 2-0 à Krins en Promotion League de football, l'équipe zélandaise joue son premier match de la saison à domicile. Exilée à Granges en raison des travaux à la Tissot Arena, les Biennois accueillent Breitenrein à 15h. Ces derniers ont remporté sur le fil 1-0 leur premier match de la saison contre Bavois. Bienne veut se racheter après la défaite subie en Suisse centrale pour engranger de la confiance après la reconstruction de l'été. Le défenseur central du FCB, Thomas Monnet.
On sait que Breitenrein, c'est une équipe qui joue toujours le top 7 pour la Coupe Suisse, donc c'est une équipe de haut de tableau et on doit réagir après cette défaite et montrer qu'on joue à domicile.
Quels sont les éléments sur lesquels il faudra accentuer le travail en quelque sorte pour trouver un bon niveau de croisière?
Je pense que le groupe est très talentueux, il y a du talent, il y a de la jeunesse aussi, mélangé un peu avec de l'expérience comme Anthony De Freitas et les autres. Mais je pense qu'on doit justement apprendre à se connaître et sur les premiers matchs, rester, on va dire, simple, jouer avec les choses qu'on sait faire. Et ça va le faire si on a un bon état d'esprit.
Malgré votre jeune âge, Thomas Monnet, vous avez une certaine expérience en Promotion League. Comment la traduisez-vous dans l'intégration des nouveaux joueurs du FC Bienne, en particulier des joueurs qui ne connaissent pas la Ligue ?
Oui, j'ai une certaine expérience à environ une centaine de matchs en Promotion League. C'est plutôt pour moi de faire découvrir un peu la Ligue et de conseiller les gens qui viennent de l'étranger ou qui découvrent tout simplement la Ligue, leur parler un peu de mes expériences et les guider.
Thomas Monnet répondait à Michel Léoni, que vous retrouverez dès 14h45 au commentaire de la rencontre entre le FC Bienne et Breitenrein, rencontre qui aura lieu, on le rappelle, à Granges à 15h. Des débuts manqués pour le FC Bézabienne. L'équipe zélandaise a perdu pour la reprise du championnat de première ligue de football. Elle s'est inclinée 2-0 sur la pelouse de Soleure hier. Les Biennois avaient pourtant réussi à maintenir un score nul et vierge après la première mi-temps. Béza tentera de marquer ses premiers points de la saison dans 2 semaines sur la pelouse des SR de Léman. Un match nul pour Tavan Tramelan dans sa nouvelle catégorie de jeu. Relégué à l'issue de la saison dernière, le FCTT a été tenu en échec hier à l'occasion de la reprise de la deuxième ligue. Il a été tenu en échec 1-1 contre Azuri Bienne à Tavan. Birs s'est, de son côté, imposé 3-0 contre Aimé à Bévillard. Gauthier Monrat et Lynn Dubois couronnés au Granitman. Le triathlète de basse-cour et la chaudefonnière ont levé les bras hier à Azuel. Gauthier Monrat a remporté sa troisième victoire de la saison sur les triathlons Jurassic Series en autant de manches. Il a bouclé les 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5,5 km de course à pied en 1h, 3 minutes et 21 secondes. Il a devancé Alex Ferrin de Courchapois et l'Ajoulot Olivier Monti de plus d'une minute pour compenser un podium 100% jurassien. Le triathlète Vadé a remporté son premier triathlon dans son canton d'origine, sous le soleil à Joulot, Gauthier Monrat.
C'est la troisième fois que je participais et c'est le premier triathlon du coup que je gagne dans le canton du Jura, donc proche de la maison, donc ça fait vraiment plaisir, c'est cool.
C'était quand même une journée assez difficile, hein, on imagine aujourd'hui avec la chaleur qui a tapé tout le long du parcours, mais vous êtes satisfait, on imagine, de votre performance.
Oui, clairement, c'était pas facile, surtout qu'on partait en dernier la vague du championnat, du coup il y avait pas mal d'attentes à la piscine, après il faisait quand même assez frais. Enfin frais, il y avait un peu d'air, mais entre l'attente, après il fallait rester focus sur la course. Puis après sur la course en elle-même, il faisait un peu moins chaud, donc ça va.
Côté féminin, Lynn Dubois s'est imposée pour la deuxième fois de sa carrière sur le Granitman. La chaudefonnière a bouclé le tracé à Joulot en 1h, 13 minutes et 32 secondes. Elle a devancé la Ténionne Sego Girard et la Soleroise Camille Zimmermann de plus de 4 minutes. Une victoire qui s'est obtenue malgré un incident technique en vélo, Lynn Dubois.
C'était une belle course, tout s'est plus ou moins bien passé, j'ai juste déraillé en vélo mais c'était pas trop grave, donc j'ai pu revenir après sur les concurrentes. Donc on avait déjà aussi eu tout le train, donc on était déjà regroupés juste avant que je déraille, donc ça... Mais après ça allait.
On a l'impression que c'est une course qui vous plaît quand même. Ici, vous avez votre deuxième victoire, vous aviez fait aussi deuxième l'année passée, c'est un parcours qui vous convient?
Oui, en vélo il y a juste la pente qu'il faut, pas trop raide. Et donc c'est effectivement quelque chose qui me convient assez bien, où j'arrive à bien appuyer sur les pédales et que ça rende et que ça avance. Donc ouais, c'est là que je fais la différence d'ailleurs, donc ça va bien.
Un dossier réalisé par Florian Wolfer. Un temps bien ensoleillé en toute région continuera de nous accompagner tout au long de la journée. Quelques cumulus inoffensifs sont possibles sur le Jura l'après-midi. Et le thermomètre affichera des températures très chaudes en plaine comme sur les hauteurs. On attend au maximum 31 degrés au bord du lac, 28 dans les vallons et 22 sur les crêtes. Et c'est une soirée calme et très douce qui nous attend. Voilà qui marque la fin de ces informations. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Bon appétit si vous êtes à table.